Alors, la définition du mot « église » par Henri Barbeau, que vous voyez donc sur la feuille, derrière la feuille. Une église Christ, bien définie et bien établie, c'est un groupe de personnes fidèles, séparées des incrédules, rassemblées dans le nom de Jésus. Celui qu'ils adorent en vérité et à qui ils obéissent sans hésiter. C'est une communion entre frères saints. Je vais lire. C'est une communion entre frères saints, chacun étant libre de mettre en pratique ce que Dieu a commandé et révélé à travers sa parole. C'est Henri Barbeau qui l'a écrit en 1593. Donc la définition de l'Église, je vais la relire. Une Église de Christ bien définie et bien établie, c'est un groupe de personnes fidèles, séparées des incrédules, rassemblées dans le nom de Jésus. Celui qu'ils adorent en esprit en vérité et à qui ils obéissent sans hésiter. C'est une communion entre frères saints, chacun étant libre de mettre en pratique ce que Dieu a commandé et révélé à travers sa parole. Quand on parle de vision de l'Église, nous savons que la vision que nous avons en tant qu'Église locale, c'est que Dieu nous a appelés à être des flambeaux au milieu d'une génération qui se perd. On est appelés à être une lumière. Ça c'est une vision que nous avons donc souvent, on est revenu souvent sur cette vision. La vision de notre Église aussi, c'est de répondre à la prière de Jésus. En Jean chapitre 17 et verset 20, « Père, je ne te prie pas seulement pour ce que tu m'as donné, mais je te prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Du moment que tu viens dans cette Église locale, du moment que tu te convertis à Jésus, du moment que tu te rends compte que tu es disciple de Jésus-Christ, tu es déjà en train de te préparer pour parler à ceux pour lesquels Jésus a prié te concernant. Père, je te prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ok? Donc, alors, imaginons, je le refais à nouveau, nous sommes les disciples avec Jésus, d'accord? Alors, levons-nous ici de ce côté, levons-nous. Nous sommes les disciples de Jésus, ok? Levez la main, nous sommes les disciples de Jésus. Jésus a prié pour nous, non, pas vous. Hein. Jésus a prié pour nous, hein, c'est ça? Il a prié pour nous. Ah, on était contents, on était avec Jésus. On a entendu Jésus. Mais il dit, Père, je suis content de ce que tu m'as donné. J'étais déjà prié de ne pas les ôter du monde. Imaginez s'il avait dit, Seigneur, ôte-les du monde. Hein. On ne serait pas ici ce matin. Du moment qu'on devient disciple, voilà, on part au ciel. Ne les ôte pas de ce monde, mais sanctifie-les, par ta vérité, ta parole est la vérité. Mais Père, je ne te prie pas seulement pour ce que tu m'as donné. Je ne vais pas être... Voilà, égoïste, voilà, on est un petit club, on est bien, c'est formidable, on va toujours rester entre nous. Père, il y a un plan. Et dans ce plan, l'Église verra le jour de la Pentecôte. Père, déjà, dès maintenant, il y a 2000 ans, il était en train de prier, il dit, Père, je ne te prie pas seulement pour ce que tu m'as donné. Levez la main. Voilà. Mais je te prie, et tournez-vous vers eux, pour ceux, levez la main haut, hein, ceux qui croiront en moi par leur parole, ok? Alors, vous levez la main, Père, je te prie pas seulement pour ceux que tu m'as donné, vous levez la main, mais je te prie pour ceux qui croiront en moi par, et vous levez la main par leur parole, ok? Alors, si nous on reste un club, sinon on se dit, bon, voilà, je sais que je suis chrétien, mais moi, j'ai ma manière de faire. Je suis ce que je sens dans mon esprit. Je ne me soumets à rien du tout. Non, je n'ai pas besoin de témoigner. Non, je n'ai pas besoin d'évangéliser. Non, je n'ai pas besoin d'aller vers ceux qui sont perdus. Alors, tournez-vous vers eux et dites-leur, mais tant pis pour vous. Hein. Tant pis pour vous. On est vraiment, vraiment désolé, mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas de plan. Ah non, il y avait un plan. Parce qu'il a dit, Père, je ne te prie pas seulement pour ce que tu m'as donné, mais je te prie pour, levez-vous, pour ceux qui croiront en moi, tournez-vous vers eux, ne me regardez pas, tournez-vous vers eux, apportez-les un sourire, Montrez-leur la Bible. Faites quelque chose. Que... Je te prie pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. OK? Prenons place. Prenons place. Alors, si la vision de notre Église, c'est de répondre à la prière de Jésus, alors que faisons-nous? Et comment le vivons-nous? Vision. Vision, ce qui imprègne l'œil, afin que le cœur puisse entendre. Vous avez cette définition. Ce qui imprègne l'œil, afin que le cœur puisse entendre. Regardez avec moi en Ésaïe, chapitre 6 et verset 1. Ésaïe 6 et verset 1. C'est la vision qu'Ésaïe a eue de la splendeur de Dieu, dans sa gloire, dans sa puissance. Bien sûr, en lisant ce passage, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, dont deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais la séraphin vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Dieu voulait une postérité. Dieu voulait un reste. Ésaïe, Jérémie, c'étaient des prophètes qui étaient en train de dire au peuple, revenez, revenez aux voix anciens, revenez, revenez à Dieu. Hein? Parce qu'ici, il fallait que quelqu'un se lève et qu'il aille à la place de Dieu. Isaïe répond, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles et ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Je dis, « Mais jusqu'à quand, Éternel ? » Il répondit jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Le peuple d'Israël allait subir la conséquence de leur rébellion, allait subir la conséquence de leur désobéissance. Le pays allait être ravagé. Pendant tout ce temps, vous savez qu'il y avait des binocles, des prophètes qui disaient « Le juste par la foi vivra. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Alors si vous pensez que tout est terminé, rappelez-vous, la fidélité de Dieu, elle reste toujours debout. Pourquoi? Parce qu'il désirait une sainte postérité, verset 13, qui devait renaître de ce peuple. Mais il fallait avoir une vision. Et ici on voit, la vision comprend l'œil, l'oreille, le cœur et la bouche. Tout doit être éveillé. En Deutéronome chapitre 29, cinquième livre de la Bible, alors j'espère entendre les pages et pas les téléphones ouverts et pas les tablettes ouvertes non plus. C'est bien d'entendre les pages tournées. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonne à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sur vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs, à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Si on est dans la vision de Dieu, on va comprendre, on va entendre, on va regarder, et le résultat sera qu'on aura un cœur rendu sensible à l'obéissance. La semaine dernière, le message a été sur l'obéissance. La vision que Dieu met dans notre cœur. Avoir une vision veut dire qu'on ne peut pas être indifférent. C'est vrai que la Bible dit que sans vision, le peuple périt. Quand il n'y a pas de vision, le peuple s'enfreint. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cadre. Et donc, tout le monde agit comme ils veulent et le peuple périt. Vous vous rappelez donc au temps des juges, à la fin, juste avant l'arrivée des rois, il disait que chacun faisait comme il lui semblait bon. Il n'y avait pas de vision. Nous, en tant qu'église locale, Dieu nous demande d'avoir une vision par rapport à l'avenir, d'avoir une vision par rapport à ce que nous touchons, un avenir d'espérance que nous pouvons offrir. En Proverbes chapitre 6, verset 6 au verset 11, nous avons l'exemple de la fourmi. Comment est la fourmi? Regardez avec moi. Elle a une vision de l'avenir. Elle a une vision de l'avenir. Elle n'est pas indifférente à l'avenir. Elle se prépare. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseuse, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Quelqu'un qui a une vision ne tombera pas dans la disette, ne tombera pas dans une pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il s'est préparé. La vision que nous avons de l'Église, c'est une vision qui doit nous porter. Quand je vais parler quelle est la vision selon la Bible de l'Église, il faut que nous, on reste conscients qu'il y a une grande responsabilité attachée à cette vision. Alors, il y a sept grandes vérités concernant l'Église. Quelles sont ces sept grandes vérités? Premièrement, le corps existe. Le corps existe. Il y a un seul corps, un seul esprit. Éphésiens 4, verset 4, Éphésiens 4, 14 à 16. Éphésiens 4, 11 nous dit que Jésus a donné à l'Église cinq ministères. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs. En vue de l'œuvre, en vue du perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Les cinq ministères sont donnés pour perfectionner les saints. Pour que nous soyons perfectionnés, pour que nous accomplissions l'œuvre du ministère. Et nous faisons partie de ce corps qu'il dit en Éphésiens chapitre 4, verset 14 à verset 16, que nous grandissons tous ensemble, nous sommes tous en train d'être assistés, tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est pour ça que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le corps existe. Du moment que tu viens à Christ, immédiatement, tu es lié et tu es attaché au corps. Amen. Alors, s'il y a un corps, il y a aussi une tête. Et si nous ne vivons pas en étant soumis à la tête, on va payer des conséquences lourdes. Regardez en Colossiens, chapitre 1, verset 12. Colossiens, chapitre 1, verset 12. Donc, le premier point, le corps existe. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. C'est une grande vérité sur l'Église. Nous sommes partis l'un de l'autre. Nous faisons partie, vous lisez 1 Corinthiens 12, 13, 14. Vous voyez comment Dieu place dans le corps chaque membre comme il veut. Donc, j'utilise cet exemple, mais peut-être toi, tu étais le coude. Tu étais le coude. Tout le monde s'appuyait sur toi. Dans le corps, Dieu t'a mis et tu es le coude dans le corps. Et tout d'un coup, il y a un jeune qui s'est converti, qui a 14 ans, qui s'avance lors d'un appel, et se donne à Christ. Et puisque le Saint-Esprit place chaque membre comme il veut, tout d'un coup, tu te rends compte que tu n'es plus le coude. Et que c'est lui qui a été mis en tant que coude, et toi, tu deviens une partie inférieure d'un doigt, d'une phalange, quelque part. Et tu te dis, mais moi, j'avais ma place, j'avais mon poste. Laisse le Saint-Esprit agir s'il te bouge d'où tu étais, c'est pas grave. Continue à contribuer à l'édification du corps. On n'est pas ici pour avoir une place dans le corps. On a une place parce que le corps existe. On a une place parce que lui, il nous a placés dans le corps comme il a voulu. Mais en Colossiens chapitre 1, verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Mais allez à Colossiens chapitre 2 et verset 16, pardon, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher à la tête, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Nous sommes attachés à la tête. La tête parle d'autorité, la direction que Dieu donne au travers la parole de Christ. Et en ce qui concerne l'Église, en étant soumis à Christ, on ne va pas se tromper, on ne va pas se trouver sur un chemin erroné. On va se trouver en train de s'édifier, de se soutenir, de s'encourager et de continuellement fixer nos regards sur Jésus. Amen. Christ est la tête. Amen. Le corps existe, Christ est la tête. Amen. Troisièmement, tous les croyants sont membres du corps. Tous les croyants. Tu ne choisis pas qui sont les membres du corps. C'est le Saint-Esprit qui se révèle et c'est le Saint-Esprit qui les place. Et tu ne choisis pas tes frères et sœurs en Christ. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'acception des personnes à avoir. On est tous là les uns pour les autres, en train de grandir, en train de permettre que le Seigneur nous fasse mûrir en lui, nous fasse croître en lui. Nous sommes membres les uns des autres. Amen. Romains chapitre 12 et verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne voir pas de lui-même une trop haute opinion. Vous savez, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont faits d'une poussière d'une qualité meilleure. La Bible dit, on est tous de la poussière. Amen. Il se rappelle de nos faiblesses. Il a une patience à notre égard. Mais on n'est que de la poussière. Il y a un chant en espagnol qui dit, un grano de arena se ha convertido en un templo del Espíritu Santo. Et je le dis pour un jeune paraguayen qui est présent. D'un grain de sable, on est devenu le temple du Saint-Esprit. Amen, amen. D'un grain de sable qu'on piétinait, d'un grain de sable qui s'est trouvé parmi les milliards de grains de sable, nous avons été choisis et d'un petit grain de sable qu'on était, on est aujourd'hui appelé temple du Dieu vivant, temple du Saint-Esprit. Tous les croyants sont membres du corps. N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et j'ajoute dans le respect, dans la douceur, en reconnaissant ce que Dieu a mis dans mon frère, dans ma sœur. Je n'ai pas toutes les compétences, je n'ai pas tous les talents. Nous nous complétons les uns les autres. Amen. Nous cherchons à nous édifier les uns les autres. En tant que membres du corps, nous sommes attachés les uns aux autres. Et vous avez souvent entendu cet exemple, mais si ma main veut gratter ma tête, il faut que mon ombre, mon coude, suive. Voilà, ok? Donc, si on est soumis à la tête, et vraiment, dans la prière, dans l'intercession, le jeûne et prière, on cherche à discerner quelle est la volonté du Père. Et que nous sommes soumis à la tête parce que nous sommes connectés à la tête. Alors le corps accomplira la volonté du Père. Et le nom de Dieu sera glorifié. Nous sommes tous membres du corps. 1 Corinthiens 12, 12 à 26, je ne vais pas le lire, mais c'est là où il est dit que dans un seul esprit, nous sommes baptisés pour former partie d'un seul corps. C'est-à-dire, nous rentrons dans l'œuvre de Christ et nous sommes baptisés dans un seul esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême du feu et de l'esprit dont on parle à d'autres moments. C'est le baptême initial Et lorsque nous sommes baptisés d'eau, c'est le symbole du moment quand, au moment de notre conversion, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Nous sommes rentrés dans l'œuvre de Christ pour former un seul corps. Un seul corps. Tous les croyants sont membres du corps. Et si vous lisez en 1 Corinthiens 12, 12 à 16, à 26, vous ne pouvez pas dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi. Vous ne pouvez pas dire, donc, au petit orteil, je n'ai pas besoin de toi. Vous savez que si vous manquez une petite orteil, tout votre corps, il est bancal. Il est bancal. Alors, je ne peux pas dire à l'un, je n'ai pas besoin de toi. On a besoin les uns des autres. Et tout le monde fait partie essentielle là où Dieu l'a placé. Mais lisez 1 Corinthiens 12, 12 à 26. Lisez-le en arrivant chez vous, aujourd'hui. Et voyez comment les membres du corps, comment est la relation, comment est la communion entre les membres, comment chacun a sa place. Le quatrième point, c'est que le représentant du Christ dans l'Église est le Saint-Esprit. Jésus est venu pour nous révéler le Père, le Saint-Esprit est venu pour encore nous révéler Jésus. Le Saint-Esprit est le représentant de Christ au sein de l'Église. Jean 16, 13 nous dit, il nous conduira dans toute la vérité. Éphésiens chapitre 2, verset 18 nous dit que nous avons accès auprès du Père par un même esprit. Romains 8, 26, 27, il nous aide dans nos prières. Il est au centre. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5, il nous donne une vigueur dans notre message. Le représentant de Christ au sein de l'Église est le Saint-Esprit. Il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois personnes ont leur fonction particulière. Et c'est à nous de connaître les trois dans leur fonctionnement particulier. C'est à nous de connaître, c'est à nous de donner la place à chacun. Il y a des personnes qui croient en Christ seul. Il y a une secte qui s'appelle Christ seul. Ils ignorent le Père, ils ignorent l'Esprit. Mais alors il vient à Christ pour aller à qui, si le Père n'existe pas? Personne ne peut venir à lui que par Jésus. Alors il y a ceux qui disent, voilà, c'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus et c'est tout. On n'a pas besoin de parler de Dieu, on n'a pas besoin de parler du Saint-Esprit. Mais qui nous conduit à toute la vérité? Qui nous convainc du péché? Qui nous convainc de justice? C'est la personne du Saint-Esprit. Le représentant de Christ dans l'Église est le Saint-Esprit.
Amen.
Alors, ce n'est pas le Saint-Esprit mon copain. Parce qu'il y a des livres écrits comme ça. Je me réveille le matin, et voilà, je lui dis mes humeurs, et voilà, et on se tutoie, etc. Attention, attention. Si vous regardez dans la parole de Dieu, les trois personnes de la Trinité sont à respecter, sont à ne pas prendre à la légère. L'onction de Dieu n'est pas bon marché. C'est gratuit, oui, mais pas bon marché. C'est à nous de marcher dans ses voies. Et en plus, la Bible dit en Ecclésiaste, quand tout temps tes vêtements soient blancs, afin qu'il ne manque point d'huile sur ta tête. Quand tout moment tes vêtements soient blancs, quand tout moment tu marches dans la sainteté, afin que l'onction de Dieu soit toujours sur toi.
Amen, amen.
Donc, quand on parle de la personne du Saint-Esprit, ce n'est pas en banalisant les choses. Faisons très attention à cela. Cinquième point, l'Église est sainte. L'Église est sainte. Si la racine est sainte, il dit en Romains, les sarments seront saints. Le fruit aussi sera saint. Nous sommes greffés à Christ. L'Église, elle est sainte. 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 17. 1 Corinthiens 3 et verset 17. Il y avait beaucoup de choses à l'Église de Corinthe. Il y avait de l'inceste. Il y avait de l'immoralité. Il y avait beaucoup, beaucoup de bagarres. Il y avait beaucoup de luttes. Et alors, en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, tout simplement, il met les choses en perspective et il dit au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et ce que vous êtes. » L'Église, elle est sainte. Nous sommes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 14. Il y a une mise en garde. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Aucun. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils serviront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifiez-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. L'Église est sainte. La sainteté, c'est un fait. C'est un état. La sanctification, c'est un processus. Et c'est pour cela que nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes transformés, nous allons de victoire en victoire, de pouvoir en pouvoir. Nous allons en grandissant dans le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit que sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Il n'y a pas de raccourci, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de raccourci. Grande a été ma surprise, il y a quelques jours, quand un jeune homme qui était très engagé à l'église chinoise pendant 2 ans, que je connaissais, avec qui j'avais parlé, je m'étais entretenu, et il n'a pas trouvé mieux que d'aller sur Facebook et annoncer voilà, que Dieu lui donne la liberté de vivre son homosexualité. Et il est chrétien et personne n'a le droit de rien dire. Il est dans la présence de Dieu, il est dans l'esprit de Dieu. Et voilà, imaginez. Dieu est saint.
Amen.
On ne peut pas aller à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Et c'était intéressant, vous savez, sur Facebook, si vous mettez quelque chose, il y a des commentaires. C'était intéressant de voir les commentaires des personnes qui disaient « Hé ! Félicitations! Mais c'est formidable, mon frère! On t'aime quand même! » Qu'est-ce que la Bible dit? Dénonçons le péché. Aimons le pécheur, mais dénonçons le péché. Et ne tolérons pas ce que Dieu appelle impur. Et nous sommes dans une situation dans laquelle il peut y avoir une secousse. Pourquoi? Parce que on voyait quelqu'un qui vivait pour Dieu, etc., etc., et tout d'un coup, voilà, je n'en peux plus, je sors de mon cocon, je sors de mon placard, comme on dit, et voilà. Mais aimez-moi, Dieu m'aime, il m'a rassuré, et ne venez pas avec la Bible. Hein. Moi, je connais la Bible, je connais tous les versets que vous allez me dire, laissez-moi tranquille. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est le corps de Christ qui va accepter d'aller dans ce sens-là? Pas du tout. Pas du tout. La Bible dit qu'il y a des choses qui ne doivent même pas être mentionnées parmi les chrétiens. Il y a des choses qui ne conviennent pas à des saints. Il y a des choses, nous sommes appelés à marcher dans une clarté, dans une sainteté devant Dieu. Regardez Éphésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui vous a aimé. Oh, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous ne pouvons pas, sous le guise de dire « Dieu est amour », baisser la barre. Nous ne pouvons pas. Il y a quelques mois, j'étais au Canada, au mois d'avril, et j'ai assisté à une convention missionnaire. Et au lieu de parler de la mission, et de parler des besoins, des milliards de personnes qui ne connaissent pas Jésus, Ils ont amené donc un homme qui était psychologue, psychiatre, pasteur, soi-disant, et il nous a parlé pendant 8 heures pourquoi l'Église doit ouvrir les portes grandes ouvertes pour pouvoir accepter ceux qui pratiquent l'homosexualité, pour pouvoir les accepter, même s'ils ne sont pas forcément partie du membre du corps, mais il faut qu'ils louent le Seigneur avec nous, il faut qu'ils se sentent à l'aise, etc. On aime le pécheur, mais on ne peut pas permettre le péché. Et c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il y a des personnes qui vont me dire, oui, Marc, mais il y a des choses, des péchés qui sont visibles et des péchés qui ne sont pas visibles. Donc est-ce que toi tu es sûr que chaque personne qui vient dans une église locale vit dans la sainteté, vit dans la pureté? Est-ce que tu es sûr que chaque personne regarde que ce que Dieu veut qu'il regarde, entend que ce que Dieu veut qu'il entende? Je me rappelle il y a plusieurs années, j'étais en train de marcher dans la rue, et donc j'ai vu un jeune homme que je connaissais, qui avait mis les pieds ici de temps en temps, mais il y a plusieurs années, ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de voir qui c'est. Alors il était en train d'écouter de la musique. Je dis, est-ce que tu me laisses écouter ce que tu écoutes? Ah non, 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 laisse-moi écouter. Non, mais je ne comprends rien, de toute façon, c'est en anglais. Laisse-moi écouter. Alors, il m'a donné son écouteur, et c'était des chants de AC/DC qui louaient Satan. Mais c'était... Je lui ai dit, mais tu es en train de pourrir ton esprit. Tu es en train d'abîmer ton âme. Tu es en train de te contaminer. Oui, mais je ne comprends rien. Oui, mais tu comprends rien, mais ces groupes-là, ils vont devant les hôtels sataniques pour consacrer leurs enregistrements pour que ça marche dans le monde, pour que des millions de personnes écoutent leur musique et soient influencées. Et hier, j'étais vraiment donc furieux quand j'ai vu que Beyoncé, elle était Beyoncé. Hein. Alors, quelques-uns de vous savez qui est Beyoncé, hein. Et vous la prenez comme référence, ok? Alors, il y a une semaine, elle a arraché une boucle d'oreille en plein concert. Il y a du sang qui est tombé. Et des jeunes ont commencé à se couper avec des lames dans le concert. Et depuis lors, tous les jours, il y a des milliers de jeunes qui se coupent par des lames, etc. Partout dans le corps, pour s'identifier à leur idole. Attention, peu importe si Beyoncé était chrétienne à un moment, peu importe si elle a de belles musiques, peu importe, écoutez ces choses et vous allez vous laisser contaminer par l'esprit de ce monde. Faites attention. Alors pourquoi? Parce que moi j'ai à cœur la jeunesse. Moi je ne veux pas que la jeunesse se perde. Je ne veux pas que les jeunes de notre église aient comme référence des chanteurs non chrétiens. Il faut qu'ils aient des références des personnes qui mènent une vie de sainteté, de pureté devant le Seigneur. Ça c'est les références dans lesquelles nos jeunes doivent se dire « J'aimerais vivre comme eux. » Pas seulement entendre leur musique, mais j'aimerais imiter leur vie. L'Église est sainte. L'Église est sainte. Sixième point, pour son édification, Christ a donné des ministères. Et les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 11, 12 et 13 et 14. Qui c'est qui accomplit l'œuvre du ministère? Qui? Le pasteur? Les prophètes? Les apôtres? Les enseignants? Les évangélistes? Qui c'est qui accomplit l'œuvre du ministère? Alors, si vous avez compris ma question, répondez-moi par votre main. Répondez-moi par votre main. Qui c'est qui doit accomplir l'œuvre du ministère? Une trentaine, c'est tout? Qui? Hein? Dieu a donné les 5 ministères en vue du perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour que quand l'œuvre du ministère s'accomplit, le corps soit édifié. Vous voulez voir un corps édifié? Alors, laissons-nous perfectionner par le Seigneur, accomplissons le ministère qu'il place devant nous. Qu'est-ce que c'est le mot ministère? Servir, tout simplement. Servir. Servir. Tu ne peux pas dire plus, être des serviteurs, c'est tout ce que Dieu demande. Je disais hier, parce que l'équipe de louanges, on s'est rencontrés, on a passé un moment à louer le Seigneur, et j'ai dit, vous savez, Dieu ne cherche pas des musiciens, il ne cherche pas des chanteurs, il ne cherche pas ceux qui font le rétro, ceux qui font la solo, il cherche des serviteurs qui soient consacrés à l'aimer, à chercher sa face. Et dans tout ça, il va se servir les talents qu'il nous a donnés, les compétences qu'il nous a données. Mais nous allons accomplir l'œuvre du ministère. Alors pour que l'œuvre du ministère s'accomplisse, combien de temps passait Jésus à prier? Combien de nuits passait Jésus à prier? À prier devant son Père. Il se retirait de la foule. Les gens venaient à lui. Et les disciples disaient, mais regarde, regarde la foule. Ils disaient, non, il faut que je me mette à part. Vous savez, le ministère, ce n'est pas seulement remplir nos compétences, remplir les rôles. Notre ministère, c'est exercer un ministère envers Dieu. Lui rendre un service en le louant, en cherchant sa face. La Bible dit en le psaume chapitre 2, verset 8, embrasser le Fils de peur qu'il ne se mette en colère. Embrasser, ça veut dire passer du temps à offrir votre affection, à lui dire que vous l'aimez, à être à ses pieds, à être à son écoute. Embrasser le Fils. Pendant qu'il servait le Seigneur par le jeûne et la prière, le Saint-Esprit leur a dit en Actes chapitre 13, « Mettez-moi à part, Saul et Barnabas, pour l'œuvre pour laquelle je les ai préparés. » Pendant qu'il servait le Seigneur dans le jeûne et la prière, ils ont choisi 7 diacres pour que les apôtres puissent se donner à l'étude de la parole et à la prière. Parce que c'est là où ils allaient recevoir les instructions de savoir comment accomplir le ministère. Et Dieu nous appelle accomplir notre ministère. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est mon ministère, mais mets-toi à genoux. Dieu va te le révéler. Et en plus, il va peut-être te révéler aux autorités en disant, pendant qu'ils étaient en train de prier, le Seigneur a dit, mets à part, tel et tel, mets à part, envoie-les à tel endroit, envoie-les à telle ville pour qu'ils puissent annoncer la parole. Savez-vous qu'il y a encore 32 000 villes et villages en France sans église? Et je l'ai dit souvent, si tout d'un coup on est tous éparpillés dans plusieurs villes dans le pays de la France pour que l'évangile de Jésus-Christ soit répandu, alléluia! Alléluia! Si tout le monde est éparpillé, n'attendons pas la persécution pour être éparpillé. À Jérusalem, c'était la persécution qui les a éparpillés. C'était la persécution qui a fait que tout le peuple de Dieu a été répandu, oui, sur le territoire. Ils sont allés en Samarie, en Judée et en Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'était à cause de la persécution. Alors, comment Dieu va nous montrer quel est notre ministère? Lorsque nous passons du temps à chercher sa face. Je vous encourage, nous allons avoir 3 jours de jeûne et prière au mois de novembre. Je vous encourage, en préparation, mettez une journée par semaine de côté. Cherchez la face de Dieu. Prenez un temps pour jeûner, pour prier, pour vraiment vous placer devant le Seigneur. Parce que Dieu veut révéler à nos cœurs quel est le ministère qu'il nous a donné. Parce que tous les saints doivent être préparés pour l'œuvre du ministère. Bien sûr, il y a ceux qui ont un ministère à part, qui vont toucher l'ensemble de l'Église. Moi, je crois que les 5 ministères, c'est pour toucher l'ensemble de l'Église. C'est pour avoir une influence sur l'ensemble de l'Église, en France et dans plusieurs pays. Et Dieu peut se servir dans des personnes clés pour amener vraiment une vision nationale. Ça, c'est extraordinaire. Il y a des hommes et des femmes que Dieu utilise de cette manière. Mais quant à nous, dans l'Église locale, c'est à chacun de nous de dire, Seigneur, tu me perfectionnes en vue de l'œuvre du ministère. Pour que le corps soit édifié. Il faut que le corps local soit édifié. Il faut qu'on soit à l'écoute de la voix de Dieu. Et 7e point, tous les membres sont des sacrificateurs. On est tous ceux qui offrent des sacrifices à Dieu. Le fruit de nos lèvres. Hébreux chapitre 13. On annonce ses vertus. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 et verset 10. Nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui qui nous avait passé des ténèbres à sa lumière. Nous sommes des sacrificateurs. Étudiez ce que ça veut dire d'être sacrificateur. Je veux simplement dire, vous au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Et cette vérité, le corps existe, Christ est la tête, tous les croyants sont membres du corps et donc attachés à la tête et attachés à l'autorité de la tête. Le représentant du Christ dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. L'Église est sainte. Pour son édification, Christ a donné des ministères pour que les membres puissent les accomplir et tous les membres sont des sacrificateurs. Mais il y a un combat à mener pour que la vision de l'Église soit réalisée au milieu de nous. Il y a quatre choses. PSTM. Prier. Souffrir. Ah, souffrir. Travailler. Et mûrir. Et peut-être on pourrait aussi inclure mûrir et mourir. Parce qu'on est toujours en train de mourir à la chair, mourir à nos droits, mourir à nous-mêmes, mourir à notre ego. Et en mourant, nous laissons que le Seigneur fasse éclore et que le Seigneur soit mis en valeur dans notre vie et dans notre cœur. Il y a un combat à mener pour l'Église. Colossiens chapitre 4 et verset 12. Priez. C'est un combat. C'est un combat. Et parfois, ce qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Qui c'est qui prie pour toi comme ça? Je prie pour Denis, Seigneur, que tu le rends sensible à ta voix et qu'il soit dans une entière soumission à ta volonté. Qui c'est qui prie pour toi déjà? J'ai posé la question la dernière fois. Est-ce qu'il y a au moins quatre personnes qui prient pour toi? Au moins? Par prénom? Ils prononcent ton prénom devant Dieu tous les jours? Une? Deux? Trois? Quatre? Ah, mais l'Église prie pour moi. Bon, ça c'est beaucoup dire. L'Église prie pour moi. Je vous ai déjà dit, si vous priez pour moi, priez des prières similaires à cette prière-là. Priez des prières, exprimez des prières avec ferveur. Et prie pour 10 personnes par jour, ne prie pas pour 100. Parce que sinon tu vas finir à la fin de la journée, Seigneur, lis la liste, je suis trop fatigué. Cette fois-ci, je ne vais pas lire les noms, tu les connais, vas-y Seigneur, lis la liste. Et moi je m'endors, priez. C'est un combat. Et Epaphras, il combattait dans la prière afin que l'Église à Colosse, parfaite et pleinement persuadée, persiste dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que ceux qui n'entreront pas la volonté du Père n'entreront pas dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21 nous dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui font la volonté du Père. Il faut que moi je m'occupe de faire ce que Dieu m'a révélé comme étant sa volonté. Faut que vous priez que je fasse sa volonté. Ma belle-mère, elle prie pour moi. Elle dit, Seigneur, s'il y a quelque chose qui n'est pas ta volonté, alors éloigne-le de là. S'il doit rencontrer une situation dans laquelle ce n'est pas ton plan, Seigneur, éloigne-le de là. Elle prie pour moi. Prier, c'est un combat. Quand on prie, les jeudis soirs, le nom de prière pour l'Église et par l'Église. Vous avez un jeudi par mois dans lequel nous allons nous rassembler ici pour combattre dans la prière pour l'Église. Et ce jeudi, il n'y a pas de groupe de maison parce que c'est la semaine où il n'y a pas de groupe de maison. Il y a des groupes de maison deux fois par mois, la deuxième et la quatrième semaine du mois, et la troisième semaine du mois, c'est réunion de prière pour combattre ici pour l'Église. Alors, il faut être présent pour combattre. Bon, je prierai pour vous, hein. Je penserai bien à vous. La prière, c'est un combat. Et quand vous commencez à remporter des victoires, vous allez être mordu que la prière marche. Vous allez être mordu de savoir que nos prières ne tombent pas le long du chemin, ne sont pas en vain. Ne sont pas en vain. Aussi, on souffre. Philippiens chapitre 1, verset 27. Philippiens chapitre 1 et verset 27. On souffre en tant que membre. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, disait Paul, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Il y a des adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et c'est là de la part de Dieu, car il vous a fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. À notre moment, en Galates chapitre 4, verset 19, disait l'apôtre Paul, afin que Christ soit formé en vous. Il souffrait. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'église de Galates de la Galatie était une église en difficulté, était une église qui voulait donc aller plus pour la loi que pour la grâce, etc. Et alors il disait, mais vous êtes en train d'anéantir le sacrifice de Jésus. Faites très attention dans les doctrines dans lesquelles vous vous trouvez. Et encore mes enfants, pour qui j'éprouve des enfants. Pardon, de nouveau les douleurs de l'enfantement. Juste ce Christ soit formé en vous. C'est ça qui est un disciple. Quelqu'un en qui Christ est formé. Quelqu'un en qui Christ est en train d'être formé. Mais il y a une souffrance. Si vous lisez le livre de 2 Corinthiens, vous voyez la souffrance que l'apôtre Paul a supportée pour être l'apôtre qu'il était, contre les attaques, contre toute l'opposition. Mais il continuait, il insistait. Pourquoi ? Parce que le résultat, c'était des saints qui se levaient et qui accomplissaient l'œuvre du ministère. Et le corps était glorifié, le corps de Christ était édifié. Et le nom de Jésus, le nom du Père, était glorifié. Troisième point, travailler. Il faut travailler. Colossiens 1, verset 28. L'apôtre Paul travaillait. C'est lui que nous annonçons. Exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, disait l'apôtre Paul. Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, afin qu'ils soient unis dans la charité, afin qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence, afin de connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. On dit que l'Église aussi est un mystère. Parce que dans l'Église est le potentiel de continuer à faire révéler Christ. Christ en nous, l'espérance de gloire. C'était un travail. En Néhémie chapitre 4, vous pouvez le lire par la suite, ils travaillaient tous d'un même cœur, ils travaillaient tous d'une même main. À un moment donné, ils avaient une arme dans la main et un outil dans l'autre. Et ils entendaient la voix de Néhémie qui disait, rassemblez-vous et combattez ensemble, parce que c'est Dieu qui combat pour vous. On travaille. Et on mûrit, on mûrit. Seigneur, apprends-moi la patience. Attention, les épreuves arrivent. Tu veux mûrir, les épreuves arrivent. C'est la manière comme Dieu traite avec nous, tant que ses enfants. Rien n'arrive par surprise. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 à 10, nous parle de cette maturité. Pour les Sylvains et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Une chose intéressante par rapport à l'église des Thessaloniques, à plusieurs reprises, il dit, on n'a pas besoin d'en parler. Vous avez compris. C'était très intéressant. Hein? Il ne fait pas de réponse à cette église des Thessaloniques. Peut-être il va donc les encourager à une vie de sainteté, comme 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il nous parle vraiment sur un appel à la sainteté dans les 6 premiers versets. Mais vraiment, c'est une église qui avait compris. Et il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. Le nom de notre église, c'est foi, espérance et amour. Et en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons faire bien-aimés de Dieu que vous avez été élus. Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et le verset 11 du chapitre 2, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La maturité le progrès spirituel, le fait de grandir dans la foi, le fait d'être mature dans les épreuves, le fait de pouvoir embrasser les épreuves de la vie et même les épreuves de feu qui arrivent dans notre vie, et que le résultat après ces épreuves, c'est la louange, la gloire et l'honneur à Dieu et jusqu'au jour de Jésus-Christ. Mûrir. 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 Vous savez, il n'y a pas de progrès spirituel s'il n'y a pas une prise de conscience de notre responsabilité en tant que membre du corps. Et Dieu nous demande de prier, de souffrir, de travailler et de mûrir. De mûrir. Parce que nous sommes de ceux qui apportent la vie. Vous vous rappelez à Élisée, en 2 Rois chapitre 4, il y avait un enfant qui est né par miracle. La mère était stérile. Et il a déclaré, il a dit, tu as un enfant et cet enfant est né. Et dans le même chapitre, au verset 29, un jour cet enfant revient du champ d'avoir travaillé avec son père et il s'allonge et il meurt. Il est fatigué et il meurt. Et Élisée vient. Et voilà donc le premier arrivé, il vient, il prie pour lui et rien ne se passe. Bon, il continue. Voilà, il est mort, il est mort. Et là, Élisée, il comprend qu'il a la vie en lui. Et si vous lisez ce passage, il met sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et immédiatement, la vie est revenue. Cela parle de l'investissement que nous avons à faire à apporter la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes spirituellement. Et Dieu attend que nous, comme Élisée, on s'investisse. On s'investisse. Afin qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Tournez la feuille, et je vais bientôt finir. Cela nous engage à trois choses. Selon Jude, chapitre 17 et verset 21, Jude, il y a un seul chapitre, c'est le livre juste avant l'Apocalypse. On le lit rarement parce qu'il est tellement petit, mais il est tellement riche. Mais vous bien-aimés, verset 17, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des disputes, des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, alors j'ai lu les hommes qu'il y aura, les moqueurs qui viendront même au sein de l'Église, parce que c'est pas les gens qui vont se moquer dans le monde, hein. Ils vont venir au sein de l'Église. La description donc, des hommes des derniers, de la fin des temps, c'est des personnes qui vont essayer de s'infiltrer au sein de l'Église de Jésus-Christ. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant. Édifier, ça veut dire bâtir. Vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Bâtir, édifier et se maintenir. Bâtir, édifier et se maintenir. Le fait d'édifier, c'est le fait de bâtir. Nous sommes tous des pierres vivantes. Nous participons tous. La Bible dit en âgé, donc apportez tous votre pierre. Apportez tous votre pierre. Vous faites partie essentielle. Pourquoi ? Parce qu'il faut bâtir la maison de Dieu. Il faut bâtir la maison de Dieu. On édifie et on maintient. Et on maintient. Et la vision, bien sûr, c'est une vision spirituelle. C'est une vision qui va nous empêcher d'être nonchalants, indifférents, apathiques. Parfois, on peut tomber dans l'apathie. Parfois, on ne se donne plus de la peine. On manifeste une apathie. On se laisse aller. Attention, s'il a une vision, le peuple ne périra pas. S'il a une vision, l'Église se lève. S'il a une vision que Dieu a mis devant nous, a mis dans nos cœurs, alors il n'y a rien qui va nous arrêter. Il n'y a rien qui va arrêter que la compassion de Dieu soit manifestée en nous, soit manifestée au travers de nous. Et encore, que le Seigneur nous parle par rapport à ce que nous devons faire concernant les réfugiés, concernant tout ce peuple qui dort sous le métro à Stalingrad, qui se réveille le matin, il y a des enfants qui se réveillent à 6h du matin, à 7h du matin, des familles entières qui sont complètement à l'abandon. Des fois, il y a des personnes qui passent, je l'ai vu l'autre jour, et ils se moquent d'eux, et ils leur jettent des imprécations, des injures. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, eux, hein? Et pourtant, nous voyons dans les journaux, donc télévisé, on voit comment les bateaux arrivent. 3100 personnes sont arrivées donc en Italie vendredi. Donc c'était jeudi, 6000 ont fait la traversée. La semaine dernière, plus de 10000 ont fait la traversée. Il y a eu des embarcations qui ont naufragé. Il y a eu des centaines de morts, 3600 morts depuis le mois de janvier. Mais les personnes, ils cherchent quoi? Ils cherchent à être libres de guerre, à être libres donc de la pauvreté, etc. Alors, et c'est ce que nous, en tant qu'Église, on va fermer notre cœur à l'étranger. Et on a prié au dernier moment du jeûne et prière, on a prié par rapport à ça. Et on va continuer à prier parce que nous ne pouvons pas être insensibles. Le dixième est rempli de personnes qui viennent des autres pays, qui sont complètement abandonnées. Oui, mais on a nos responsabilités. On a les offrandes spéciales qu'on fait par rapport aux travaux. On ne pourrait jamais, etc. Mais on peut, pourquoi? Parce que Dieu est la source. Et si nous sommes dans sa vision, peut-être il y a des personnes qui doivent se convertir. J'ai connu quelqu'un donc, au Canada ce dernier voyage et ils ont écrit un livre qui explique donc, comment Jésus a expliqué aux disciples d'Emmaüs depuis les prophètes et par Moïse, il leur a expliqué tout ce que les Écritures disaient lui concernant. Et ce livre a été traduit dans 90 langues. Et la dernière langue dans laquelle ils l'ont traduit, c'est Farsi. Les Afghans, les Iraniens, etc. Le Farsi. Et alors, ils me disent, Marc, tu nous dis, et on t'envoie des... nous, on paye donc, pour l'envoi, mais on vous envoie des milliers de livres dans toutes les langues que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a une moisson. Il y a une moisson à récolter. Il y a des personnes qui viennent en Europe et qui viennent dans nos parages pour accepter Jésus et pour recevoir Jésus. Il y a une église en Allemagne, je vous ai dit, 450 personnes se sont converties en une semaine. Des personnes qui arrivaient dans la ville et qui ont été touchées par l'Église. Vous pouvez voir par la suite les références qui suivent. La vision est spirituelle. Et lisez encore. Il disait, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Le serviteur avait peur parce qu'il voyait que l'armée arrivait. Et il disait, mais Élisée, on est condamné. Et Dieu, Élisée dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et tout d'un coup, Dieu a ouvert ses yeux. Et il a vu qu'il y avait toute une armée autour d'eux. Et il a vu qu'ils étaient victorieux. Parce que dans l'esprit, il avait compris la vision de Dieu. Job chapitre 42, verset 5. C'est là où Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, après les épreuves, mon œil te voit. Maintenant, j'ai compris. J'ai la vision que tu as mis dans mon cœur. J'ai compris. Et si vous lisez le livre de Job, il a mis beaucoup de temps à voir Dieu. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La vision est spirituelle. Je ne peux pas vous encourager plus de vous placer devant Dieu, de vous humilier devant lui, d'avoir ce cœur pur pour voir Dieu. Jean 16, 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira à toute la vérité. La vision est spirituelle. Si nous sommes éclairés, nous allons savoir sur quel chemin marcher. Et Hébreux chapitre 11, verset 27, Moïse, il a quitté l'Égypte en vue de quoi? Des choses invisibles qu'il voyait au loin. Quel est le télescope de la foi dans notre vie? Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, nous voyons ces héros de la foi. Ces héros de la foi, eux, ils ont vécu par la foi dans le sacrifice à venir. Aujourd'hui, nous vivons par le sacrifice qui est passé il y a 2000 ans. Mais quel est notre télescope de la foi? Quelles sont les choses que nous voyons, qui sont invisibles aujourd'hui, mais que nous voyons par la foi? Ouvre les yeux de mon cœur, Père, je veux te voir. Seigneur, nous te remercions, parce que tu veux renouveler notre vision. Ça ne sert à rien, Seigneur, de nous considérer des disciples si nous n'avons pas compris pourquoi nous sommes tes disciples. Quelle est ta vision des choses? Je te demande, Seigneur, vraiment de sensibiliser nos cœurs. Parle à nos cœurs. Le peuple de Dieu te cherche et le peuple de Dieu parlera et le peuple de Dieu révélera ce que tu désires pour nous. Mais sur ce dans des moments de recherche de ta face, que nous allons avoir ce face-à-face avec toi et que nous allons être interpellés. C'est le kit de louange, je peux venir rapidement, s'il vous plaît. Nous allons être interpellés. Feu dévorant à tisser en nous la passion pour ton nom. Je te demande, Seigneur, vraiment aujourd'hui, que tu renouvelles notre vision. Nous ne pouvons pas rester insensibles, insouciants, nonchalants. Seigneur, tu nous appelles à te renouveler dans notre vision. Tu nous appelles, Seigneur, afin que tout ce que nous faisons puisse contribuer à l'édification du corps. Merci pour les ministères qui travaillent au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère pour que le corps soit édifié. Et nous, Seigneur, à prendre conscience, nous faisons partie du corps. Nous sommes membres les uns des autres. Tu nous as créés pour toi, on a lu. Nous avons été créés par toi et pour toi. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tous mes frères et sœurs, chaque membre de cette église locale, ils puissent à partir d'aujourd'hui, Seigneur, voir les choses différemment, avoir une perspective différente. Car, Seigneur, nous voulons être conduits par une passion profonde pour ton nom. Une passion, Seigneur. Une passion pour te connaître. Une passion, Seigneur, pour te faire connaître. Une passion, Seigneur, pour répondre à la prière de Jésus. En Jean chapitre 17, renouvelle notre vision. Alléluia, renouvelle notre vision, Seigneur. Lève-nous tous, lève-nous tous. Seigneur, tu nous invites. Tu nous invites, Seigneur, nous voulons être ouverts. Nous voulons que tu ouvres les yeux de nos cœurs. Car nous voulons te voir, Seigneur. Si nous te voyons, nous pourrons le dire, le proclamer. Nous pourrons enseigner. Seigneur, ta volonté s'accomplira. Et le royaume de Dieu s'étendra. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, l'extension de son royaume.